C'est l'heure de retrouver la voix de la Berbérie.
Et oui, nous sommes pile poil à l'heure, 13 heures passées de d'une poignée de secondes sur les ondes du Campus Lille. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de retrouver la voix de la Berbérie sur les ondes du Campus Lille, 106.6 FM pour la région des Hauts-de-France, sur le DAB+, et sur campuslille.com pour le reste du monde. La Voix de la Berbérie, un rendez-vous hebdomadaire présenté et réalisé par Anzar tous les dimanches de 13h à 15h. J'espère que vous êtes fidèles au rendez-vous. Si vous souhaitez nous écrire, contact.elvelbert@gmail.com et toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues. Notre numéro de téléphone, à défaut, est pour mémoire 03 62 28 89 18, mais pendant les plages musicales. أماكن نورث نوميز ورنوفا يمس بلين تمسلي ذي نانت أثلا من داكونا حلوانا قيا ماذا قيدي فرنسا ماذا ربعا ثقوما راندوني تزول ذا مقرن فلاون أنصو في سونا حتغاني تمزغي ودس قارضي شير دور فلاونا قيا وما رفيقنا أنزرا فوذ ما مطا في نكون بيس 130 شهر 6 سلام عيمس بلين تمسلي ذي نسعد الوحيد أخوذي الهاني أخوذي قرزنا كرما ثمبون رث ذي ثلاثة ذي قوين ودس قارشا ذي نوفا ذي قوهل نوفا بوساقنيا أما في فوس أما في زلمريس ورف وهب ماذا قليس لدي ونوفا قيا أماكن هذا ميزبر نوازل فلان مرا وذي في كثام زورث ثقيت يعني أنت ما زغاد نس قرش يا الدور ثم أنت هذا خشوم مثلا عمر قزام في مطو عزول فلو نزول أو ذنيفع وليو أورن السنة كذا حشكول سيزيكي صفا وريديو سكرب بنشر قال المثول ذا وزغاد يكشم سيكريو مياو ستي شهر ستة ما تفضي قضان في ذات سنة متك واش حاليا ونسخض ذي تفاوت أفروق نيارزن يتناصف مكانات جود ذي تفرد عليل عليل أشحال ديس قوسنايا أشحال دي الميليد ون نتساوي دسيا وسيا مزيوت دي مرن قفل عكون سيقول دسفان على حفل ديس محسيس واني فغانا ديف كفوس أنا فاك نتسقم في عكم من انتنسيف سوس أنا وضروي نجم لكن نتسرجو شي تثقوس واني فغانا دي يزدم وزيغو أريدم 362 26 89 18 والنار بوندك نتسلم Alors aujourd'hui, au programme de cette nouvelle émission, donc de cette émission, cette édition d'aujourd'hui, nous recevrons un invité rare, à la fois discret et profondément engagé. Il s'appelle Arzqin Aitsmail. Né en France de parents kabyles, il grandit entre deux cultures et choisit d'enraciner une grande partie de sa vie en Algérie, où il a enseigné l'anglais avant de revenir en France comme formateur. Mais c'est dans l'écriture qu'il trouve une voix puissante, intime et politique à la fois. Son premier roman, Afrique, ma mère, publié chez L'Harmattan, est un cri de douleur, mais aussi un chant d'amour pour l'Algérie, pour l'Afrique, pour les mères qui résistent. Arzqin Aitsmail nous livre avec Afrique ma mère, un roman bouleversant à la fois intime et universel, à travers le regard d'une mère en quête du corps de son fils assassiné pour son propre frère. L'auteur adresse un tableau sans concession de l'Algérie blessée par l'extrémisme religieux, tout en célébrant la résilience de la mémoire culturelle. Nous avons le privilège de le recevoir aujourd'hui dans le studio de Radio Campus pour l'interview exclusive. Monsieur Aitsmail, bonjour et bienvenue dans les studios de Radio Campus.
Merci bien, Anza. Je commencerai par dire que Aitsmail, c'est un pseudonyme que j'ai choisi.
J'ai mon pas nom... voulu de le dire, mais bon.
mon nom est Rabah Saoudi. J'ai choisi, brièvement, ce pseudonyme Aitsmail, en référence au roman en lui-même, en liaison au roman en lui-même, pour être au diapason d'un des thèmes essentiels du roman, qui est la quête identitaire. Tout simplement, j'ai choisi, donc j'ai opté de publier ce livre sous ce pseudonyme, Esqin Al-Sema'al, qui est notre nom que nos ancêtres ont adopté depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour. Au village, on nous appelle encore Al-Sema'al.
On y reviendra tout à l'heure, mais d'où vient cet accent? D'où vient cet accent qui a, que pour quelqu'un du Nord, un ch'ti?
Bon, disons que je suis né en région stéphanoise. Donc je suis stéphanois de naissance. Et bon, c'est ce qui fait que j'ai cette double culture française et algérienne.
Et justement, c'est pour ça d'ailleurs que je vous demande, donc avant de rentrer dans le cœur de votre ouvrage, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs justement qui est Arzqin Al-Sema'al, mais je vais continuer à dire Arzqin Al-Sema'al. Donc, alors quel est votre parcours en fait?
Bon, disons que c'est mon premier roman qui me tenait à cœur, qui m'a habité pendant des années avant de pouvoir commencer à écrire et me lancer dans l'écriture. Vu que, bon, à cette époque-là, je vivais en Algérie et comme tous les Algériens dignes de ce nom, amoureux de ce pays qui est nôtre, je souffrais intensément de voir notre pays sous le joug, un pays livré à la barbarie du terrorisme islamiste.
Je parle du parcours, de votre parcours.
Oui, bon, mon parcours personnel, disons que j'ai été, après avoir fini mes études, j'ai choisi d'enseigner et j'ai choisi un poste à Ain El-Hammam, ex-Michelet, qui est au cœur de la Kabylie, et j'ai choisi délibérément cette région.
D'accord, mais en fait, donc, Afrique ma mère, paru aux éditions L'Harmattan, est votre premier livre, comme vous le disiez. Donc, et quel livre d'ailleurs? Vous abordez plusieurs thèmes puissants et profonds, ancrés dans l'histoire contemporaine de l'Algérie, mais aussi dans les réflexions plus larges sur l'Afrique, l'identité, l'humanité. Alors, pourquoi ce livre, l'histoire inspirée des faits d'ailleurs, des faits réels ou des récits symboliques?
Bon, les faits que j'ai relatés, je les ai puisés dans la réalité, dans la souffrance qu'a subi le peuple algérien pendant une décennie ou plus.
D'accord, mais alors, pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? Pourquoi l'envie de l'écrire ce livre?
Il me tenait à cœur. Il me tenait à cœur. Comme je viens de le dire, c'est un thème qui m'a habité, qui continue de m'habiter. L'islamisme, l'intégrisme islamiste, que j'ai mis en liaison ici également avec la quête identitaire, qui doit être à mes yeux la seule réponse que l'on peut apporter pour voir plus clairement devant nous et essayer de nous tracer un avenir, nous définir.
Oui, et d'ailleurs, dès les premières pages, donc, le lecteur est saisi d'effroi en découvrant la barbarie dont l'homme est capable. Le personnage de Jean, poète et libre penseur qui se fait égorger par les ennemis de la vie, Adawn to the Earth, restera libre de ses pensées jusqu'aux portes de la mort. Alors, d'où vient cette force de cette résilience là du peuple amazigh?
Bon, j'ai choisi tout d'abord le prénom de Jean. C'est un hommage à Jean Sénac d'abord, et puis également bon à l'héritage culturel français que le colonialisme. Bon, ça a été un colonialisme qu'a subi l'Algérie, qu'a vécu l'Algérie, mais nous avons hérité tout de même de la culture française, et Jean Sénac était profondément algérien. Il avait choisi dès le début de rester en Algérie, de vivre en Algérie et d'adopter la nationalité algérienne, étant ancré, enraciné dans ce pays. Il était profondément amoureux de l'Algérie. Et je pense que Jean Sénac était la première victime de l'arabo-islamisme en Algérie, parce qu'il représentait, et également par les idées qu'il défendait. C'était un homme, un poète, qui chantait une Algérie libre, une Algérie ensoleillée. Je n'en veux que pour preuve que Jean Sénac signait tous ses poèmes par un soleil.
Oui, mais vient aussi d'ailleurs, vient aussi le, ensuite le personnage central, la mère, donc son amour inconditionnel, contraste avec l'unanimité donc, avec, du terrorisme, soulignant d'ailleurs le sacrifice maternel. Alors pourquoi avoir choisi le fil, ce fil rouge dans l'écriture de ce livre ?
Pour le fil rouge, la mère représente, illustre en quelque sorte l'Algérie et beaucoup plus largement. C'est-à-dire l'Afrique du Nord, l'Afrique berbère, qui est le lien continu depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour. Le berbère, Temezirth, continue à vivre en dépit de tous les aléas de l'histoire. Et c'est un peu le fil rouge qui est lié en quelque sorte à l'histoire de l'Algérie, de l'Afrique du Nord et de Sefer Tougafa, l'Afrique du Nord.
Donc on parle, ce personnage en fait, c'est l'Algérie en elle-même.
Tout à fait.
Alors, à travers
l'Algérie, plus largement, l'Afrique du Nord, ça fait le truc, l'Afrique berbère.
L'Afrique berbère. Donc, Samazra, on dit.
Samazra.
Donc, la Berbérie. Alors, c'est pour ça la voix de la Berbérie. Donc, aujourd'hui, c'est Ranit Mazra, la voix de la Berbérie, du l'intitulé de cette émission. Alors, à travers cette mer aux portes de la folie, hein, qui sillonne les contrées à la recherche de son fils assassiné, vous mettez en avant la culture et l'histoire des Berbères, comme vous venez de le dire, à travers les âges. Peuple souvent effacé dans l'histoire officielle de l'Algérie. Alors, diriez-vous que ce roman est aussi une quête de mémoire, une façon de réparer les oublis historiques ?
Tout à fait, oui. Je suis profondément, moi, touché par la quête identitaire qui remonte au plus loin. C'est ce qui a fait que la culture, la langue Temezirth sont demeurés jusqu'à ce jour. On a pu les préserver, les sauvegarder, parce que le peuple berbère a toujours tenu à ses origines, à ses racines, à sa culture et à sa langue. Nombre de langues qui coexistaient dans l'Antiquité ou même avant avec le berbère sont mortes, elles ont disparu. Mais pas le berbère, Temezirth, qui était pourtant une langue orale.
Mais vous ne pensez pas qu'elle est sur le point sur la voie de disparition, cette langue, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Maghreb, Temazra, donc comme le disiez tout à l'heure.
Je ne pense pas. Si elle a pu résister à toutes les invasions, à toutes les occupations qu'a subi Sefer Tsougafa, l'Afrique du Nord, pour parvenir jusqu'à nous, jusqu'à notre génération, elle ne pourra que survivre. D'où le nom que j'ai donné à l'un des personnages, Yizir.
On revient tout à l'heure. Mais en fait, elle va survivre. Vous disiez qu'elle va survivre. Elle vivra à Tzidir. On revient tout à l'heure. Mais vous dites qu'elle va résister. Mais de quelle façon ? Aujourd'hui, quand on voit l'Algérie, donc on va sortir un petit peu de ce livre. En fait, on voit aujourd'hui ce qui se passe en Algérie. Donc quand on parle d'Afrique Tougafa, l'Afrique du Nord, Nord Temazra, la Berbérie, etc. Donc en Algérie. Quand on voit aujourd'hui ce qui est la langue la plus officielle, c'est l'arabe. Donc avant il y avait aussi donc il y a le français. Maintenant c'est l'anglais. Mais en fait, même malgré que cette langue est reconnue langue nationale et officielle, mais elle est où aujourd'hui ? Quel constat vous faites justement par rapport à cette reconnaissance, à sa place aujourd'hui ? Quelle est la place de cette langue aujourd'hui déjà, quand on dit qu'elle va résister ? Alors, quelle est sa place aujourd'hui déjà, depuis qu'elle est reconnue comme langue nationale et officielle ? Langue officielle, je veux dire.
Oui, la survivance de Temezirth n'a jamais été liée à son officialité, à son caractère officiel, que les pouvoirs ont bien voulu, statut que les pouvoirs ont bien voulu accorder à cette langue. Elle a pu survivre, justement peut-être que l'une de ses forces, ça a été son oralité. Donc elle n'a jamais eu besoin d'être reconnue officiellement par...
Vous pensez que c'est suffisant pour une langue ?
Tout à fait.
De résister, d'exister. De...
La force hein? de cette langue, ça a été son oralité, sa transmission orale de mère en fille, de père en fils, ainsi de suite, de génération en génération. Mais... C'est ce qui a fait sa force, c'est ce qui lui a permis de survivre à tous les aléas de l'histoire.
Alors pensez-vous, je ne vais pas fondre, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, pensez-vous que l'Algérie aujourd'hui reconnaît suffisamment la diversité et la recherche de ses identités ?
Justement, bon, l'un des obstacles à la reconnaissance de son identité sont l'arabisme et l'islamisme qui ne peuvent pas reconnaître cette diversité, étant donné que ce soit pour le nationalisme arabe ou l'idéologie islamiste, ce sont des idéologies qui se fondent sur l'homogénéité, l'uniformité d'une culture et d'une langue, d'où le rejet qu'ils ont. De tout ce qui ne provient pas de ce nationalisme arabe ou de l'idéologie islamiste.
Oui, vous êtes à l'écoute de La Voix de la Berbérie sur les ondes de Radio Campus Lille, 106.6 FM pour la région des Hauts-de-France, sur le DAB+, et sur campuslille.com pour le reste du monde. Avec voilà, Arzqi Aït Smaïl, écrivain algérien engagé, que nous recevons à l'occasion de la sortie de son livre « Afrique, ma mère » par aux éditions L'Harmattan. Donc, livre qui nous dresse un tableau sans concession de l'Algérie blessée par l'extrémisme religieux, tout en célébrant la résilience et la mémoire culturelle. Donc nous voulons d'aborder plusieurs thèmes sur, sur votre ouvrage, autour de l'origine de cet écrit, l'identité culturelle et les racines amazighes. Mais nous allons aborder maintenant un sujet plus sensible, plus douloureux, le cœur même de cette histoire tragique. Les auditeurs auront compris que l'histoire se déroule lors de la décennie noire qui a fait plus de 200 000 morts. Donc vous abordez le terrorisme islamique avec beaucoup de force. Comment avez-vous vécu cette période noire de l'Algérie, monsieur Arzqi?
Bon, je l'ai vécu dans la souffrance, comme tout le peuple algérien, et j'ai évoqué tout cela, toute cette souffrance du peuple algérien, dans nombre de passages.
Je rappelle qu'à l'époque, vous étiez là-bas.
J'étais là-bas. Bon, j'étais en Kabylie, qui était beaucoup moins touché que de beaucoup d'autres régions.
Qui a payé un lourd tribut quand même.
Oui, tout à fait. Ah oui, bon.
Des journalistes, des chanteurs.
Des journalistes, des chanteurs.
Le savoir,
des,
le joueur,
oui, ouais. Des hommes politiques, ainsi de suite. Qui s'opposait à l'expansion de l'idéologie islamiste, ont été assassinés. Je me souviens, moi, de l'assassinat de Tigzirin, ainsi de suite.
Djaout, premier journaliste assassiné.
Oui, tout à fait. Et puis bon, j'ai relaté tout cela dans certains passages où je parle des massacres qui ont été commis.
Oui, mais comment vous l'avez vécu, cette période? Cette période noire de l'Algérie, cette décennie noire de l'Algérie.
Bon, je l'ai vécu dans une souffrance profonde. Hein, lorsque je relis certains des passages, je pleure, j'ai les larmes aux yeux. Je pleure vu que j'évoque cette souffrance-là de famille pauvres, de familles de montagnards qui ont été assassinés, massacrés dans leur ensemble parce qu'ils ne voulaient pas tendre la main à l'idéologie islamiste.
Mais quand on la vit de près, on n'a pas besoin de lire en fait pour pleurer tous ces événements, toutes ces périodes, cette période triste pour l'Algérie.
Ben, ça continue à me toucher jusqu'à présent. C'est une période et un thème très sensible à mes yeux.
Justement, alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, alors, l'élan plutôt, d'écrire ce livre aujourd'hui, plus que 20 ans après donc, la décennie noire?
Bon, disons que le thème de l'islamisme, le thème de la quête identitaire, les deux sont intrinsèquement liés, fondamentalement liés, m'ont toujours habité, hein, étant donné qu'il y a un lien entre les deux, ce sont deux opposés. L'islamisme s'oppose à la masérité de l'Afrique du Nord, et la masérité nous indique la voie à suivre, qui est le retour à nos propres racines. C'est le seul moyen, à mes yeux, de pouvoir contrer toute idéologie qui nous est étrangère.
Alors, votre ouvrage dénonce les ravages de l'extrémisme islamique en Algérie et montre comment le fanatisme peut déchirer une famille, notamment à travers le personnage d'un fils devenu chef terroriste. Alors, comment avez-vous trouvé le ton juste pour traiter une histoire aussi tragique?
Oui, le personnage dont il s'agit, c'est Ahmed. Ahmed qui a été enfanté suite à un viol de la mère. La mère a été violée au moment de la conquête arabo-musulmane de l'Afrique du Nord. Et elle a dû enfanter Ahmed. Ahmed, c'est un peu un personnage qui illustre le côté, qui illustre l'aspect, le côté musulman, disons, de l'Algérie, que nous ne nous renions pas. L'Algérie peut être musulmane, mais ce que nous revendiquons, c'est la liberté de confession, justement. Et musulman, qui le veut, ne l'est pas, qui le veut.
Alors, je repose ma question encore une deuxième fois. Alors, comment vous avez trouvé le ton juste pour traiter une histoire aussi tragique?
de... Bon, c'est en plongeant un peu dans le, en faisant un voyage spatio-temporel. C'est la mer qui le fait. Hein. C'est la mer qui le fait, qui plonge dans le passé le plus lointain possible de Saint-Mézerain, et pour retrouver un peu ses racines et pour faire revivre au lecteur ce passé-là tumultueux. Parfois, bon, sanguinaire également. Il faut dire que Orba a conquis l'Afrique du Nord en brandissant l'épée. Hein, en brandissant l'épée, c'est une réalité historique. Orba
qui
a été tué par Koseïla, justement. Je voudrais faire le lien entre les deux personnages. Orba, qui est présenté comme un héros mythique. Des conquêtes musulmanes, alors que c'est un général qui était connu pour son caractère sanguinaire, sans pitié à l'égard des populations qu'il voulait conquérir.
Là, on revient, vous nous faites revoyager un peu sur une deuxième fois sur l'histoire, en fait, sur les fins fonds de l'histoire. Mais là, on parle de l'intégrisme, on parle de la Cinée noire, de la décennie noire, justement. Donc, c'est de ça que j'aimerais que vous nous parliez, justement. C'est parce que nous sommes, justement, dans le... nous sommes dans le chapitre de votre livre, hein, donc, qui parle de cette décennie noire, de l'intégrisme, de ce terrorisme. C'est ça, en fait, d'où ma question.
Oui, disons que l'intégrisme a connu un certain cheminement en Algérie. Hein. Les Algériens, le peuple algérien, n'a jamais été auparavant intégriste, extrémiste à ce point-là, bien que cette idéologie, bon, a des sources tout de même qui reviennent jusqu'à un passé récent de l'Algérie. Mais j'ai essayé également d'illustrer un peu à travers le personnage d'Ahmed le cheminement.
Et... Je parle en fait de ces ravages de l'extrémisme islamiste, justement, qui a quand même... qui a enfanté justement des terroristes, en fait, le frère, il est capable de tuer son frère, donc il dégorge son frère, il est capable de dégorger sa mère, il est capable de dégorger sa propre sœur. Donc c'est pour ça d'ailleurs que quand on parle, quand on passe à travers justement des fils devenus des chefs terroristes après. Donc voilà, et c'était ça en fait que j'aimerais que vous nous parliez un petit peu justement de ce passage-là.
Oui, tout à fait, oui. Disons que l'idéologie islamiste est confortée par le fait qu'elle puise ses idées dans l'islam lui-même. Bon, il faut le dire que les sources originelles, historiques de l'islamisme, de l'intégrisme islamiste, se trouvent dans l'islam en lui-même. Du fait que l'initiateur de cette religion a commis lui-même, a commandité lui-même des massacres, des tueries, en s'opposant par exemple à certains poètes ou à des poétesses. J'évoque l'assassinat d'un poète et d'une poétesse qui sont emblématiques un peu de l'attitude qu'avait l'initiateur de cette religion, c'est-à-dire Mohammed en lui-même, à l'égard de tout ce qui pouvait s'opposer à lui, qui pouvait s'opposer à son idéologie, essentiellement les poètes, parce que la poésie dans la société arabe jouait un rôle essentiel. C'était le mode de communication qui existait à cette époque-là et qui pouvait avoir une influence immense sur les peuples. Les poètes étaient très écoutés, ils étaient suivis, c'était un modèle. Et Mohammed les craignait. Il a craint la poésie. Et j'ai fait le lien avec justement la crainte, la peur de la poésie et des poètes chez les islamistes actuels. Ils considèrent que la poésie détient une sorte de force magique vis-à-vis des populations. Et c'est cette puissance magique de la poésie est crainte par les islamistes, comme elle l'a été à l'époque de Mohammed également, qui a fait assassiner une poétesse, mère de famille, ainsi qu'un poète âgé. Et tout ceci relève de faits historiques qui ont été rapportés par des historiographes musulmans.
Là, en fait, vous nous parlez justement de cet ouvrage. Donc, il dénonce plutôt les ravages de l'extrémisme islamiste. Donc, bien sûr, et montre comment le fanatisme peut déchirer une famille. Donc, notamment à travers le personnage d'un fils devenu chef terroriste. C'est ça.
Oui, au point où le fils n'a pas eu peur une fois qu'il avait adhéré à cette idéologie, il n'avait plus aucune crainte, étant donné qu'il plaçait cette idéologie au-dessus de tout, qu'il n'avait aucune crainte pour assassiner son frère, assassiner son père. C'est le cas, il y a eu certains faits de cette nature-là. Mmh. Des enfants, des fils qui ont tué le père, ou des frères qui ont tué leur propre frère.
En fait, le livre aussi, il évoque également le processus d'endoctrinement quand on vient de parler. Donc, à l'instar finalement d'une secte. Alors, comment ce Ahmed, donc vous avez cité tout à l'heure, jeune berbère qui a grandi dans les valeurs, des valeurs de liberté, devient un intégriste sanguinaire et tout cela avec l'aval des autocrates qui gouvernent le pays.
Oui, Ahmed a suivi un cheminement assez long. Il n'était pas intégriste au départ, tout comme les intégristes actuels ne l'étaient pas non plus. C'est tout un cheminement qui a été suivi sous l'influence de cette idéologie et des tenants de cette idéologie-là, qui étaient par exemple le fils et d'autres, bon, toute la mouvance islamiste, qui a pu avoir imposé son emprise sur la société par un processus qui s'est inscrit sur plusieurs décennies. Mmh. Un processus dans lequel que Ahmed a accepté de suivre au départ et qui l'a mené justement jusqu'à pouvoir commettre le meurtre de son frère.
Alors, je vais vous demander d'ailleurs de lire quelques extraits de votre livre, si vous le voulez bien. Et puis, je vous poserai une question précise à la fin. Donc, pouvez-vous nous lire le texte surligné, page 161 ? Vous y êtes ?
Tout à fait. J'y suis. Bon, là, le paragraphe commence par « il ».
Surligné.
Oui. Il s'agit d'Ahmed. Il choisit au tout début, d'aller dans des mosquées qui étaient construites à l'opposé de la ville, au milieu d'agglomérats hétéroclites d'habitations et d'immeubles jaunis par la poussière, dans les quartiers pauvres, où ces temples majestueux, tout en jurant avec l'aspect plébéien des entours, nourrissaient des illusions de grandeur, de beauté et d'opulence dont les habitants avaient tant besoin. La misère semblait suinter des murs décrépits et crasseux, des bâtisses délabrées et des masures sans âge auxquelles étaient adossées, à longueur de journée, en enfilade infinie, serrées comme des harengs, de jeunes désœuvrés qui voyaient du même regard désenchanté les jours défiler dans un long tunnel sombre.
Alors ce passage évoque la construction de mosquées somptueuses à tout va, la misère, l'absence de perspectives d'avenir, l'abandon des populations, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Alors maintenant, je vous invite à lire le passage donc surligné de la page 173.
173, voilà, j'y suis. Oui, tout à fait, c'est intrinsèquement lié. Hein.
Bien sûr.
Anzar a bien choisi le lien entre ces deux passages. Et ce rituel se reproduisait à l'infini Le rituel, bon, des rencontres dans les mosquées, ainsi de suite. Et ce rituel se reproduisait à l'infini dans la platitude de la friche culturelle, d'où seules saillaient les mosquées, devenues le seul exutoire par où pouvait s'épancher cette ardeur de la jeunesse désœuvrée et frustrée des quartiers miséreux que ces thaumaturges venaient recueillir pour la transmuer par leurs prêches exaltées en l'illusion dans les cœurs et les esprits de ces jeunes d'avoir une mission apostolique. Et ce, tous les soirs, mais surtout chaque vendredi, érigé en jour férié hebdomadaire, tout cela par la grâce des autocrates qui gouvernent le pays et qui ont décidé d'abdiquer leur tutelle spirituelle sur le vulgum pecus en faveur de ces mages, pour mieux en aiguiller la conscience, de crainte de voir le peuple séduit par la libre pensée et d'autres idées fatales à leurs intérêts.
Alors, ce passage évoque les usurpateurs hein, qui prônent aux jeunes la religion comme seule porte de sortie vers un avenir meilleur, n'est-ce pas ?
Tout à fait, oui. C'est pour ça que je parle d'exutoire, oui.
Voilà,
oui,
d'accord.
Tout à fait.
Enfin, votre livre évoque également les déviances de certains imams qui détournent les versets du Coran pour appeler au djihad. Au regard de ces éléments que nous venons justement d'évoquer, pensez-vous que la société algérienne est aujourd'hui sortie de l'ombre de l'intégrisme religieux ou alors est-elle sombrée d'un millénaire noir ?
Bon, en parlant de versets de Coran et d'imams, ils n'avaient pas besoin de les interpréter ou de les dévoyer, étant donné que ces versets étaient tout à fait explicites en appelant à la violence. Et
vous l'avez lu le Coran ?
Beaucoup de passages, justement, qui évoquent cette utilité d'avoir recours à la violence.
Quel passage, par exemple ? Quel passage du Coran qui appelle à la violence ?
Ce sont des versets où il est dit, par exemple, que à titre d'exemple, hein, que les chrétiens et les juifs ne pouvaient être acceptés que s'ils, premièrement, acceptaient l'islam, se convertissaient à l'islam, ou s'ils acceptaient de payer un impôt, ce qui est contraire à toute forme de liberté de croyance.
D'accord. Alors, sinon, c'est quel passage du Coran qui appelle à la violence ? Par exemple, si vous ne croyez pas au prophète et ses disciples, il faut les combattre.
Il y a des versets qui disent explicitement « tuez-les tous ».
Ouais.
« Tuez-les tous ».
Et quel passage ? Vous avez parlé dans votre livre, hein, je ne vous pose pas des questions anodines. Hein,
d'accord, donc, j'ai dû évoquer ces versets, mm-hmm. mais il se trouve que je n'ai pas en tête les numéros de ces versets ou de ces sourates, mais je les ai cités.
Vous avez peut-être en tête le numéro des pages où ça a été cité, non ?
Bon, je les ai cités en parlant du cheminement, justement... intellectuel, bon, si je peux dire, essentiellement idéologique d'Ahmed, qui fréquentait des mosquées, qui fréquentait des sortes de conclaves entre prosélytes et toute personne qui pouvait se prêter à ce prosélytisme-là.
Oui.
Il s'agissait de ce qu'ils appelaient à l'époque en arabe le nom m'échappe, mais c'était une sorte d'assemblée qui réunissait les prosélytes et ceux qui acceptaient d'aller écouter ces prosélytes-là.
Alors, monsieur Aït Smaïl, en fait, on disait que il y a le Coran d'après, donc vous avez lu, je ne sais pas ce que vous avez lu, le vrai Coran, le faux, ou alors celui qui est imposé aujourd'hui pour endoctriner toute cette nouvelle génération.
Bon, j'ai disons...
Parce qu'apparemment, il y a plusieurs versions.
Oui, J'ai plusieurs versions, plusieurs disons traductions.
Ouais,
hein.
Bah, oui,
traductions.
Oui, plusieurs versions différentes.
Oui.
Le vrai, le faux. Et le...
Je me suis basé essentiellement sur la traduction de Jacques Berck, qu'on ne peut pas soupçonner d'adversaire de l'islam. Hein. Jacques Berck. Et en me référant également à la version arabe. Bon, je sais lire l'arabe, je déchiffre l'arabe. Lorsque je ne comprenais
pas... C'est magnifique pour quelqu'un qui est né en France.
Oui, bon, disons que j'ai pu apprendre l'arabe à l'école, étant donné que j'ai fait mes études en Algérie. Donc j'ai une maîtrise, même si elle est vraiment faible, de l'arabe, qui me permet tout de même d'avoir une certaine compréhension de ces versets-là. Et lorsque, bon, il y avait des termes que je ne pouvais pas comprendre, je revenais à la traduction de Jacques Berck, qui essayait souvent d'édulcorer certains versets. Lorsqu'il y a un verset parlant des femmes, Sourate Nissa, la sourate des femmes, qui disait que l'homme pouvait battre sa femme si elle lui désobéissait, en passant par plusieurs étapes, mais qui le pouvait aller jusqu'à la battre. Et bon, dans toutes les versions que j'ai connues auparavant, en arabe, c'est « yazrobuna », en français, c'est « battre ». Jacques Berck, bon, il a utilisé un autre terme, il a évité de parler de « battre », c'est-à-dire de coups physiques, et il avait parlé de corriger les femmes. Mais « yadorobuna » ne signifie pas corriger, il signifie battre.
Donc en deux mots, la femme reste un esclave de l'homme.
Tout à fait.
Voilà. En fait, mais pour revenir à tout ça justement, donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vais reprendre la question. Donc votre livre justement, quand il évoque toutes ces déviances de certains imams qui détournent les versets du Coran, comme on vient de le dire. Alors, au regard de tous ces éléments que nous venons d'évoquer, alors pensez-vous que la société algérienne est aujourd'hui sortie de l'ombre de l'intégrisme religieux, ou alors a-t-elle sombré d'un millénaire noir? Quand on parle de dessiné noir, il y a le millénaire noir aussi. Le millénaire noir plutôt.
Anza, je voudrais dire tout d'abord que ces imams-là n'ont pas eu besoin de dévoyer les versets du Coran, étant donné que ces versets étaient clairs et explicites en appelant à la violence, en appelant par exemple également à la soumission de la femme.
Peut-être c'est des versets choisis pour endoctriner. C'est parce qu'on peut-être on parle de la troisième version du Coran.
Oui, oui.
Hein? Ils ont pas apparemment la première version du Coran, elle a disparu, elle n'existe plus. Même en Arabie Saoudite, apparemment, elle n'existe plus.
Oui, version du Coran, faut dire que bon que la
parce
version.
Parce que quand on voit tous les Saoudiens justement qui se bavent dans les salons de l'Occident, hein, je vous laisse imaginer la suite.
Oui. En parlant de version du Coran, il est vrai que le Coran, il a été transcrit au départ sur des supports matériels tels que des os d'omoplate, tels que des feuilles de palmier, ainsi de suite. C'est par la suite parce que, bon, il avait commencé à y avoir plusieurs interprétations, plusieurs transcriptions de ce que Mohammed avait transmis. Et bon, Othman, c'était le troisième calife.
Ouais, calife de Mahomet.
De Mahomet, oui. Othman ibn Affan, qui avait décidé pour...
Ibn Affan. Ça vient de ça, en fait, Ibn Affan.
Peut-être, oui.
Hein? C'est quoi Ibn Affan, en fait?
Ibn Affan. Bon, disons que Ibn Affan, peut-être qu'il avait un autre sens.
Ibn Affan, c'est quoi Ibn Affan?
Ibn Affan, en kabyle, ce sont les salles.
Voilà.
Ibn Affan. Mais bon, Ibn Affan, c'était le nom du clan auquel il appartenait. C'est lui qui avait décidé, vu qu'il s'était rendu compte de la diversité des versions qu'il y avait, il a donc lancer une sorte de collecte des différentes versions pour pouvoir en adopter une, mais sur quelle base? Une base tout à fait subjective. Donc la version dont les musulmans ont hérité actuellement, qui dit que c'est la meilleure, que c'est la bonne. C'est celle qui avait été choisie par ce que Othman ibn Affan avait délégué.
Alors on fait quoi la version de Salman Rushdie aujourd'hui?
La version de Salman Rushdie, ouais. Dans les versets sataniques,
les versets, ouais.
Oui, bon, plusieurs historiographes repris par des historiens spécialistes de l'islam, ont repris cet épisode-là des versets sataniques, qui est un épisode réel. C'est là où Mohammed a essayé, pour gagner un peu les païens, comme il les appelait à l'époque, le Juhala, qui était loin de l'être. Donc, pour essayer de gagner cette partie de la population, il avait fait certaines concessions en disant que, parce que bon, les païens, comme il disait, bon, c'était des païens, oui, des polythéistes, ils avaient droit de croire en plusieurs dieux, ils avaient leurs propres convictions, et croyaient en l'époque en certaines divinités latines, l'Uzza, Manat, à Médine. Et pour pouvoir gagner leur adhésion à l'islam, il a accepté d'en faire en quelque sorte des subordonnés de Dieu. Parce qu'au départ, il prenait le monothéisme. Et il a dû faire cette concession aux païens en acceptant ces divinités-là, que je viens de citer, comme des secondes, en quelque sorte, de Dieu. Il a fallu que ses compagnons le rappellent à l'ordre pour lui dire « Ah non, le monothéisme est monothéisme, nous ne devons croire qu'en Dieu. Dieu ne peut pas avoir de subordonnés ou de secondes. » Et c'est là qu'il a dit, qu'il a affirmé que ces versets-là lui avaient été dictés par Satan. D'où le nom de versets sataniques. Mais c'est une réalité historique rapportée par des historiographes de l'époque.
Alors, pensez-vous que la société algérienne aujourd'hui est sombrée de l'intégrisme religieux ?
Bon, c'est une question vraiment très, très délicate. Hein. Disons qu'il y a... L'Algérie, elle est livrée à différentes forces sociales, politiques, qui sont en train de s'affronter, justement. C'est ce qui fait un peu notre espoir. C'est que la modernité continue à vivre dans ce pays-là. Mais cette modernité-là est contrée par des forces contraires. Nous le voyons quotidiennement, où la revendication amazigh est contrée par certains chefs de file, bon, que je n'oserais même pas qualifié de penseur, tel que le docteur Belrit, qui a essayé de dire qui a dit clairement que Temezir, Temezran étaient des créations franco-sionistes. Mais aller jusqu'à ce point-là, il y a de quoi s'arracher les cheveux.
C'est pour peut-être justifier la construction des mosquées à tout va en Kabylie. Donc quand on voit toutes les mosquées qui poussent comme des champignons en Kabylie, donc minimum 3 par village, donc je pense apparemment, d'après les statistiques, donc il y a plus de mosquées en Kabylie, le bastion des hommes libres, les Maziron, donc les Berbères. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mosquées chez eux que dans le reste du pays. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un espoir ? Quand on voit
l'espoir
ça.
Continue à exister. Moi, je préfère parler d'espoir que de voir l'Algérie complètement perdue, disons, à nos rêves. Hein. Nous continuons à vivre d'une Algérie libre, démocratique et plurielle. Bon, pour ce qui est des mosquées, la Kabylie, bon, elle a toujours connu des mosquées. Moi, dans mon propre village, il y avait,
la mosquée du village. Les gens, ils vont aller travailler.
Tout à fait.
Ils se rencontrent le soir ou peut-être une fois par semaine. C'est parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller faire la prière 5 fois par jour. Et aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Même les entreprises, apparemment, donc, ils ont des mosquées, ils ont des endroits, des lieux pour faire la prière. Donc, voilà, ils font la prière 5 fois par jour. Mais la mosquée dont vous nous parlez justement, c'est comme la mosquée de chez moi aussi, hein, les anciennes donc,
oui.
Mosquées de Kabylie. Donc en fait là, elles sont utilisées pendant les fêtes. Les fêtes, il n'y a pas grand-chose. Donc des lieux de rencontres et des lieux où on règle les conflits aussi du village. Donc quand il y a deux familles qui s'apprennent. Et aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Il y a minimum 3 mosquées par village. Et d'où vient l'argent ? D'où vient l'argent ? Et d'où viennent tous ces financements ? Et en plus, ce n'est même pas les villageois qui occupent ces espaces. Ça vient de l'extérieur. Ils viennent carrément de l'Est, de l'Ouest pour montrer leur force, pour dire qu'ils sont nombreux. Et c'est pas, c'est même pas des gens du village qui vont aller dans ces mosquées-là. Est-ce que aujourd'hui, quand on voit tout ça, on me dit qu'il y a vraiment, il reste vraiment un espoir en Kabylie?
Bon, moi,
et pour cette et pour Tamazer Zaghi dont tu vous parlais, que vous défendez.
Oui, oui. Allez. Oui, oui. Bon,
que nous défendions tous.
Pour dire que le caractère traditionnel des mosquées en Kabylie était porté l'étiquette fondamentalement laïque. Fondamentalement laïque dans le sens où c'était Thejmath, l'assemblée du village, qui gouvernait le village. Et l'imam de la mosquée n'était qu'un simple citoyen du village. Il n'avait pas, disons, plus de pouvoir que tout autre citoyen. Donc la Kabylie a toujours vécu dans la laïcité, et c'est cette laïcité que les islamistes ont en horreur. Et c'est ce qui les a menés à construire leur propre mosquée pour agrandir, renforcer ou amener, parce qu'elle n'existait pas auparavant, amener leur emprise sur la Kabylie par les mosquées qu'ils viennent de construire, alors qu'il n'y a pas de village kabyle qui n'a pas sa propre mosquée traditionnelle. Mais comme je viens de dire...
Des mosquées qu'il n'y avait même pas à l'époque, il n'existait même pas de... Il n'y avait pas de minaret dans ces mosquées kabyles.
Il n'y avait pas de minaret.
Aujourd'hui, dans chaque village, donc, il y a toutes les fusées. Malheureusement, des fusées qui ne décollent jamais.
Tout à fait.
Voilà. Alors, dans les villages, c'est les mosquées, et dans les montagnes, c'est les casernes de gendarmerie.
Tout à fait.
Et ben voilà. Donc, la Kabylie, elle est barricadée. Et voilà, il est où l'espoir entre le tigrisme et la dictature.
Et tout cela pour montrer que nos ancêtres étaient beaucoup plus intelligents que ces gens-là qui construisent, qui imposent leur propre mosquée. Qu'on vient de le dire à Nzar, nos ancêtres, lorsqu'ils construisaient leur mosquée, ils n'avaient pas besoin de construire un minaret à côté, parce que la mosquée, elle était située en haut du village. C'est le cas, moi, dans mon village,
c'est la montagne.
La mosquée était située en haut du village, donc le minaret, ils avaient compris que le rôle, la fonction du minaret, et ils n'avaient pas besoin de cela pour que l'appel à la prière se fasse entendre, ils n'avaient pas besoin du minaret. Ils ne l'ont pas construit. C'était une mosquée tout à fait fonctionnelle.
Alors c'est comme le sacrifice d'Abraham, enfin bref. Alors est-ce difficile d'ailleurs, voire dangereux d'écrire un livre aussi critique envers toutes ces dérives religieuses?
Moi, c'est au nom de la liberté de pensée, de croyance, de confession, c'est tout ceci qui a été mon moteur dans l'écriture de ce roman-là. Ma liberté, je situe la liberté au-dessus de tous, au-dessus de tout et de tous, au-dessus de ma vie et de nos propres vies à nous. Parce que, bon, une vie sans liberté n'est pas une vie.
Ça vous arrive d'avoir peur?
Bon, peur non, mais disons que je me prépare à toute éventualité.
يتصرف ذرر الصورتي يوكنا ذي غزة ذرر وكال يوفاتي في نسكاس لا سكا لا مهار سلا في سكاس زيس يوم يخسن الطوفان يري غني هيمس
دوني ذي كل كار سكسد في الله تليفزيو راديو تجارنا
ولما تعب سلطان تاع السلف الاسد
ثم السلطان ونتحزي بيت من غي وذي درنا يوكنا ذعني نويذي موثنا
أرثم ونشتاني سك الليلة طوفان
يقيم مرثم وزكا ثم غليسي كات كات
أرثم ونشتاني سك الليلة طوفان
قلّا مثيما تنحب وسعى مرستك أرتق رمي قلنا الطوفان سوسير مثيما تثير أزدي غلّ يورقى فلاس انت مثل سيا مرزات خمسة لابي سياس وادر نونات صرف ندورا لي صور ذيني وقنا تنونا تغصم ندورا الوكال وتيلي تمسو الطعم أنا ثني حذر تليفزيون راديو دي جرنان أرمسلين فلاس يمشيني دي مغمس نقاح قاقا دوطن أتنس حلون غاتن شوجين هاتن شوجين غاتن سحلون هاتن شوجين هاتن
نصلين فريغا ونجفو مودي Voilà, c'est la voix de la Berbérie sur les ondes de Radio Campus Lille, 106.6 FM pour la région des Hauts-de-France. Et puis, nous sommes toujours en compagnie de M. Arzqi Ait Smaïl, auteur du livre « Afrique, ma mère », paru aux éditions L'Harmattan. Nous venons d'évoquer un sujet sensible, encore une fois, donc le ravage de l'intégrisme islamiste en Algérie, notamment pendant la décennie noire, mais votre histoire donc, est aussi une ode à la résistance, à la dignité et à l'espoir. Alors, le prénom du fils hein, survivant, Yidir, qui signifie « il vivra », Yidir. Alors, est-ce un symbole d'espoir délibéré dans une histoire donc, profondément tragique?
Oui, ce n'est pas par hasard que Yidir... C'est un personnage que j'ai introduit dès le début de l'histoire en revenant au plus profond de l'histoire Nsimezra, de l'Afrique berbère, et qui a survécu jusqu'à présent. Yidir, comme vient de le dire Anzar, signifie « il va survivre ».
Yidir.
Yidir.
En kabyle.
Yidir.
D'où le nom d'Yidir, le regretté Yidir.
Voilà, tout à fait.
Le pseudo.
C'était également un hommage à Yidir, qui était un des vecteurs essentiels.
L'ambassadeur de la chanson kabyle à travers le monde.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, voilà, Yidir signifie il va survivre. Donc, à mes yeux, il continuera à survivre.
Alors, dans votre écriture, vous oscillez entre poésie, symbolisme et réalisme cru. Alors, comment trouve-t-on le temps juste pour traiter une histoire aussi poignante?
Bon, je l'ai fait en fonction de ce que je voulais évoquer, de ce dont je voulais parler. Il y avait des moments où, pour, disons, synthétiser ma pensée, j'ai eu recours à une certaine forme de lyrisme, je dirais. Et lorsqu'il fallait évoquer des moments terribles que le peuple algérien a vécu, là, c'était, disons que je plongeais dans un réalisme le plus cru possible. Hein. L'assassinat de la famille, le viol de la femme devant ses enfants, et les enfants qui sont par la suite assassinés, c'est ce qui s'est déroulé réellement. Nombre de femmes ont été violées en Algérie. Certaines...
Sans oublier d'ailleurs, sans oublier les ventre-mondes des femmes enceintes aussi.
Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est pour ça que je parlais du bébé dont le crâne a été écrasé voilà. Contre un pilier. Oui. Pour en finir avec lui, avec ce bébé-là. Il ne voulait même pas voir un bébé survivre à leur massacre. Et lorsque le père leur reproche cela, il explique en disant qu'il ne voulait plus que cette graine germe sur cette terre-là, la terre d'Algérie.
En fait, cette destinée noire, donc, ils ont mis du temps pour arriver en Kabylie. Comment, quel constat faites-vous justement par